On a parlé que le chrétien, c'était un disciple de Jésus-Christ. On s'interrogeait d'ailleurs sur notre identité, sur ce qu'est être chrétien. Et on a vu que c'était un suiveur du Christ. Et que finalement, le serviteur n'est pas plus que son maître. Et donc c'est dans cette optique que l'on menait notre vie ici-bas, si nous appartenions au Seigneur, et que finalement, un des objectifs de notre vie, c'était d'apprendre de Christ pour vivre pour Christ. Que ça devait être un petit peu notre vision dans ce monde. Alors, savez-vous que dans notre monde occidental, un tiers des personnes souffrent de myopie? 30% des personnes en Europe et en Amérique du Nord, des adultes, ont un trouble de la vision qui s'appelle la myopie. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas vous parler en long en large de la myopie et des caractéristiques médicales de ce trouble de la vision. Mais j'aimerais prolonger sur un petit peu ce qu'on a vu ce matin déjà ensemble et parler d'une myopie qui nous est donnée, indiquée dans la Bible, qui est une myopie spirituelle. Et Baptiste nous a lu tout à l'heure dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre, on a lu certains passages, et justement, Pierre, dans ses épîtres, traite de la myopie spirituelle. Pierre a écrit deux épîtres. On a lu un passage ce matin qui nous parlait que nous sommes une race élue, et un petit peu plus loin, dans la deuxième épître de Pierre, Pierre nous dit pourquoi il a écrit ces épîtres. Il nous dit, mes chers amis, dans 2 Pierre 3 au verset 1 et 2, mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche par mes avertissements à stimuler votre jugement et à éveiller en vous une sainte réaction en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Rappelez-vous ce que les saints prophètes d'autrefois ont prédit. Souvenez-vous des préceptes laissés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et transmis par vos apôtres. Voilà, l'objectif de Pierre, c'était de stimuler un jugement, de réveiller, d'éveiller une sainte réaction. Et donc ce matin, quand on lisait que nous étions une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Donc, on est là dans un but bien précis. Et donc, Pierre, par ses écrits, cherche à quelque peu nous réveiller ou nous donner un peu la bonne vision du monde, parce que sinon, on risque de tomber dans une sorte de myopie, à ne regarder que pas plus loin que le bout de notre nez, à regarder nos considérations purement personnelles, et voire même de perdre la mémoire vis-à-vis de ces choses que le Seigneur nous a enseignées, nous a données. Alors j'aimerais lire avec vous dans 2 Pierre, au chapitre 1, les versets 3 à 11, qui traitent justement de ces questions-là. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, nous lisons verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà un passage de Pierre, de la deuxième épître de Pierre, que j'aimerais voir un petit peu, pas dans tous les détails ce matin, mais partager juste quelques pensées. Et donc, il nous est parlé de finalement de la vie chrétienne, de ce que nous sommes appelés à devenir, à travailler, à œuvrer tout au long de notre vie chrétienne pour devenir ou pour atteindre une certaine maturité spirituelle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu ne nous injecte pas la maturité spirituelle en intraveineuse lors de notre conversion. Ça ne marche pas comme ça. La croissance spirituelle, c'est un long processus. Et finalement, dans notre vie spirituelle, le statu quo n'est pas une option. Donc on a du pain sur la planche. On a de quoi faire. Et quand on voit certains exemples qui nous sont donnés, par exemple Paul qui nous dit dans les Corinthiens au chapitre 9, versets 26-27, il travaillait justement pour grandir spirituellement, pour atteindre finalement ou pour ressembler de plus en plus à Christ, suivre cet exemple de Christ. Il nous disait « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Le psalmiste disait que lui, il cherchait « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Jour et nuit, c'est du travail. Dans Hébreux, il nous est dit aussi, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Courir avec persévérance. Si vous faites un petit peu de footing ou de jogging ou comme ça, vous savez qu'au bout de quelques kilomètres, souvent ça commence à coincer. Mais non, on continue, c'est dur. Et donc, on nous demande justement de grandir spirituellement. Mais ça, c'est quelque chose qui démarre lors de notre conversion. Ça demande tout d'abord la foi. Ça demande tout d'abord qu'on accepte, comme l'a répété Baptiste ce matin et comme certains l'ont partagé, à un certain moment, on comprend ce que le Seigneur a fait pour nous. On se tourne vers lui pour saisir son pardon grâce à l'œuvre de la croix. Et à partir de ce moment-là, par la foi, nous saisissons toute l'œuvre qu'il a accomplie. Et dans Éphésiens 2, il nous dit « Sa grâce seule est la source de notre salut, c'est cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. » Donc voilà le début, c'est la foi. C'est d'ailleurs ce que nous dit aussi Pierre ici, verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Donc il commence ce passage en parlant de la foi. Rien ne vient de vous, rien ne vient de moi, de nous, tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Heureusement qu'on ne peut rien faire, sinon on s'en vanterait tous les jours. Et dans Hébreux 11, il nous est rappelé, « Sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. » De tout leur cœur. Donc il y a un point de départ, ce que Baptiste disait, il y a un avant, il y a un après. Il y a avant ce moment où on a accepté Jésus Et donc, à partir du moment où on a saisi cette foi, par la foi, le salut en Jésus-Christ, eh bien, ça va nous pousser à œuvrer pour lui dans cette vie. À présent, Romains 6, 18, affranchi de votre ancien maître, le péché, vous êtes entré au service de ce qui est juste. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que on a l'impression de pédaler ou d'aller d'avancer nulle part, quand, des fois dans notre vie chrétienne, ou de ne pas aller assez vite, de ne pas croître assez rapidement? Pourquoi est-ce que souvent on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez? Eh bien, justement, je pense que ce passage de Pierre nous donne quelques pensées et quelques pistes pour travailler et ne pas que notre croissance puisse se faire et ne soit pas vaine. Dans Thessaloniciens, et c'est un petit peu un passage parallèle à ce passage de Pierre, où il nous est rappelé, je lis, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Marcher de progrès en progrès. Voilà ce que l'on nous demande et voilà ce que Pierre aussi cherche à nous montrer à partir de sept caractéristiques qui se trouvent dans cette deuxième épître de Pierre au chapitre 1. La première des caractéristiques, c'est la vertu. Pierre nous dit... Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc il nous dit déjà pour commencer, attention, s'il n'y a pas de croissance en vous, s'il n'y a pas de croissance en moi, c'est pas à cause de Dieu, parce qu'il a tout donné, tout est prêt. Mais est-ce que je suis prêt à le saisir? Est-ce que je suis prêt déjà à m'engager et de marcher et d'aller de progrès en progrès? Donc celle-ci, donc la connaissance et sa divine puissance nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous a donné toutes ces promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et si l'on regarde un petit peu différentes traductions de la Bible, la vertu est renseignée des fois comme qualité morale, vertu, bonne conduite, une vie honnête ou une énergie morale aussi. Une énergie morale, une certaine piété, une sainteté, une excellence morale ou voire même un courage spirituel face à un monde hostile. La force d'affirmer finalement ce qui est vrai. Un petit peu aussi comme le courage de David qui, de son temps, même face aux géants philistins, pouvait annoncer le Dieu vivant. Et ce n'est pas facile parce que nous nous trouvons actuellement dans un monde où finalement le bien et le mal sont définis de façon complètement différente. Et chacun finalement fait sa propre règle. Chacun se dit... Voilà, la bonne direction, au lieu de partir d'un absolu, on rejette l'absolu de la parole de Dieu, eh bien chacun va se faire sa propre boussole et dire, eh bien le nord c'est par là. Et puis pour un autre, ça va être ailleurs. Et on voit bien que nous construisons toute chose dans notre société, bien sûr c'est un processus démocratique, et donc le plus grand nombre, si le plus grand nombre dit que le nord c'est par là derrière alors qu'il est ailleurs, eh bien, c'est quand même ça que l'on va accepter. Et donc, on perd l'absolu de la parole de Dieu. Et donc, la vertu, l'excellence morale que cherche à nous donner la Bible, la parole de Dieu. La deuxième chose que Pierre nous dit, c'est il y a la connaissance. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Ou la science, traduisent aussi certains, ou même dans d'autres traductions, la vraie connaissance de Dieu, ou dans Parole de vie, mener une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. parole vivante, nous dit que votre énergie morale, donc la vertu qu'on a lu tout à l'heure, que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. Donc une recherche, non pas simplement de connaître certaines choses et d'accumuler le plus de connaissances possible sur n'importe quoi, non, mais une vraie connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu. Et là, on peut s'inspirer de la connaissance de Salomon ou la sagesse de Salomon. Il est dit dans Proverbe 15, « Le cœur de l'homme intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des sots se repaît de folie. » Et dans Philippiens 1, verset 9, « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite. » Et là, je pense que l'on peut dire, finalement, c'est la connaissance spirituelle, la croissance spirituelle dans la connaissance de Dieu, ce n'est pas d'apprendre forcément toujours plus de choses sur Dieu, mais c'est d'expérimenter Dieu dans notre vie de tous les jours. De toujours plus expérimenter Dieu dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est un processus quotidien qui va durer toute notre vie ici-bas. Le troisième point que Pierre souligne, alors là je sais que j'ai du boulot sur la planche, c'est la maîtrise de soi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, ou aussi appelée la tempérance, soyez maître de vous-même. Savoir avoir une vie équilibrée, savoir quand dire non, faire des choix judicieux dans nos vies, ne pas simplement accompagner la foule parce que tout le monde le fait, ne pas prendre de décisions basées sur des sentiments, mais choisir de faire ce que nous savons être la bonne chose à faire. La maîtrise de soi. Et Paul, on a déjà lu tout à l'heure, Paul apprenait justement à se maîtriser toujours plus, ou avait l'impression de se maîtriser, malgré les moments difficiles qu'il a pu passer et qu'on peut lire dans Romains 6 à 8. Il dit ensuite, « Je cours, mais pas comme à l'aventure, nous avons lu tout à l'heure, je boxe, mais non pour battre l'air, je traite durement mon corps et je le discipline. » Donc il s'obligeait à une certaine maîtrise de soi, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Traiter durement son corps et le discipliner. Certaines disciplines, pas toujours évidentes à trouver, à avoir. Et à tenir aussi. C'est pour ça que Pierre ajoute, en plus de la maîtrise de soi, ça ne sert à rien, maîtrise de soi ponctuelle, juste pendant 5 secondes, et puis après ça ne tient plus. Il nous parle aussi de la patience. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience. La patience, ou dans certaines autres traductions, la persévérance. Patience, persévérance. Soyez patient, soyez même, nous dit Alfred Kuhn dans sa transcription, Parole vivante, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Donc ce n'est pas simplement une maîtrise de soi ponctuelle, mais c'est dans la durée. Donc nous devons nous rappeler sans cesse que la vie chrétienne constitue un défi à endurer. Donc il ne suffit pas simplement de démarrer avec éclat, mais il faut aussi persévérer malgré les difficultés. Vous savez, l'idée selon laquelle la vie chrétienne serait une suite sans fin d'expériences extraordinaires, je pense que les plus âgés parmi nous peuvent certifier que ça relève de l'utopie. On doit, tout au long de notre vie chrétienne, affronter la routine quotidienne, les tâches domestiques, les circonstances décevantes, les chagrins, l'anéantissement de nos projets personnels, plein de choses. Et donc c'est là où finalement la patience, la persévérance va nous donner de supporter et de persévérer face à tout ce qui semble même s'opposer à nous. Donc, un autre point à faire croître en nous. Ensuite, cinquième chose dont Pierre nous parle, la piété. Dans 2 Pierre 2, versets 5 et 6, donc nous continuons la suite des caractéristiques qui sont nécessaires ou que nous sommes appelés à travailler. À cause de cela même, je répète, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. Alors qu'est-ce que la piété ? Bien, nous trouvons là aussi dans d'autres traductions des compléments qui nous parlent justement d'ajouter à la persévérance l'attachement à Dieu. Piété, attachement à Dieu. Ou, et en même temps, soyez fidèles à Dieu. Parole vivante nous dit, à la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Donc, vivre de façon à plaire à Dieu, être attaché à Dieu et s'attacher à Dieu, qu'importe les circonstances. Et ça, non seulement de façon ponctuelle, comme on l'a vu tout à l'heure, mais dans la durée. Patience, persévérance aussi pour cela. Et je pense qu'un des exemples criants de l'Ancien Testament et même de toute la Bible, de cette piété, de cet attachement à Dieu, c'est Job. Job, dans Job 2, verset 9, sa femme lui dit « Mais tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée, quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et oui, c'était remarqué que malgré les circonstances difficiles, adverses, contraires, eh bien, Job demeurait ferme dans son intégrité, dans son attachement à Dieu, dans sa piété. Il restait ferme, malgré tout. C'était un exemple. Et ça se voyait autour de lui. Une autre caractéristique est l'amitié fraternelle. Il nous a dit à la piété, il faut ajouter l'amitié fraternelle. Alors l'amitié fraternelle, là aussi, c'est donné affection fraternelle ou amitié envers vos frères et sœurs chrétiens. Affection fraternelle, de nouveau pour parole vivante. Et c'est vrai que Jésus nous donne cet exemple même, parce que dans Marc 3, quand on lui parle de ses frères et sœurs, puisque c'est amitié fraternelle, là ça va beaucoup plus loin que simplement... Enfin, l'amitié fraternelle, pardon, c'est pour mettre en parallèle ce qui se passe à l'intérieur d'une famille. On a des liens, moi, entre Benjamin et moi, on a une certaine amitié fraternelle, entre père et fils, bien sûr. Et puis au sein de notre famille, il y a des liens d'amitié qui se sont installés, envers et contre tout des fois, non ? Non, ça va bien. Alors, on a une amitié dans la famille. Mais là, l'apôtre Pierre nous dit, eh bien, tout comme vous avez des liens d'amitié à l'intérieur d'une famille, eh bien, ça doit être la même chose au sein d'une église. Et Jésus, justement, nous apporte cet exemple. Quand dans Marc 3, versets 31-35, la mère et les frères de Jésus arrivent alors, ils se tinrent en dehors de la maison et lui envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Un grand nombre de personnes étaient assises autour de Jésus et on lui dit « Écoute, ta mère et tes frères, tes sœurs sont dehors et ils te demandent. » Donc, la famille proche de Jésus pensait avoir un traitement différent, différentiel, préférentiel par rapport aux autres personnes qui étaient là, puisque c'était... Les frères, c'était de la même famille. Et là, Jésus répond, « Mais qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et dit, « Voyez, ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Donc voilà, Pierre nous souligne là, et Jésus le fait également, nous donne l'exemple suprême, d'aimer les frères et sœurs dans la foi comme s'ils faisaient partie de notre famille. Parce qu'ils font notre famille physique, terrestre, mais ils font partie de notre même famille spirituelle. Alors, oui, tout à fait. Mais il faut aussi faire attention, ça ne doit pas être une excuse pour nous, pour ne pas aimer et s'occuper des siens et de notre famille propre aussi. Je ne le dis pas ça pour mes enfants parce qu'ils s'occupent très bien de nous. Hein. Le septième point, c'est l'amour. Et c'est le dernier, c'est finalement la cerise sur le gâteau ou le chapeau qui vient conclure tout cet enchaînement de différentes caractéristiques. Il est dit là, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour, et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, dans toutes les traductions, tout le monde est d'accord sur le terme amour. C'est l'amour de Dieu, sans condition, qui donne tout, qui lâche tout, pour donner aux autres. Cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Et là, on veut se rappeler finalement ce que disait Paul aussi aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 13. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et il continue dans le premier verset du chapitre 14, qui suit donc 1 Corinthiens 13, 13. Recherchez avant tout cet amour, mettez tout votre soin à en être rempli. Et donc, Pierre, justement, finit là toute cette liste par l'amour, et il commence par la foi. La foi, l'espérance et l'amour dans 1 Corinthiens, et Pierre commence par la foi et termine par l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui a conduit notre Sauveur jusqu'à la croix pour tout donner pour nous et pour faire que nous puissions être des enfants de Dieu. Alors si on cherche à résumer un petit peu ce passage et aussi si vous souhaitez le prolonger, j'aimerais vous citer quelque chose qui était dans un commentaire biblique où il nous disait que certains abordaient ce passage en citant la chose suivante. Ajoutez à votre foi la vertu ou le courage de David. Donc nous avons de quoi méditer sur David, le courage qu'il avait, la vertu qu'il avait. Au courage de David, la connaissance de Salomon, qui lui a demandé à Dieu finalement la sagesse, cette sagesse qui venait d'en haut. À la connaissance de Salomon, la patience de Job. On l'a vu très rapidement, Job 2, mais on peut lire la suite du livre de Job. À la patience de Job, la piété de Daniel. La piété de Daniel qui vivait dans un monde hostile, qui survivait grâce à Dieu dans ce monde hostile. Et nous nous trouvons exactement dans les mêmes conditions aujourd'hui. Vous trouvez, vous les jeunes, exactement dans les mêmes conditions que Daniel. À la piété de Daniel, l'amitié fraternelle de Jonathan, qui ne cherchait pas une certaine rivalité, non, mais qui vraiment cherchait à aimer celui qui allait devenir le roi David et qui est devenu ensuite le roi David. Et à l'amitié fraternelle de Jonathan, l'amour de Jean dont cet amour ressort aussi dans ses différents écrits du Nouveau Testament. Donc, 7 points que nous pouvons revoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans une semaine, vous avez 7 jours, non ? Donc, vous avez chaque jour de quoi travailler un point particulier, par exemple. On pourrait se dire, ben tiens, on n'est pas obligé de faire tout à la fois, mais qu'on puisse chercher à tendre, à grandir. Bien sûr, ça doit être, le point de départ, c'est quoi ? C'est la foi. Il doit y avoir ce point de départ. Il y a un avant et il y a un après. Si vous n'avez pas cet avant, vous ne pourrez pas avoir l'après. Mais si vous avez cet avant en Jésus-Christ, si vous avez pu être sauvé par Jésus-Christ, alors vous pouvez vous engager dans ce chemin et chercher à croître. Et nous pouvons nous engager dans ce chemin et chercher à croître. C'est un travail de toute une vie. On n'a jamais fini. Et je sais que moi, j'ai encore beaucoup de travail. Pierre, au verset 8, nous dit une chose très intéressante. Il nous dit, si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en nous, alors nous allons pouvoir porter du fruit et du fruit en abondance, qui va être utile pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'avancement de son règne sur cette terre. Donc si l'on cherche la croissance dans ces sept domaines différents, ça va être bénéfique pour le royaume de Dieu, pour notre vie de chrétien de tous les jours aussi. Ça va aussi nous empêcher et nous éviter d'être oisifs et stériles, de ne pas porter du fruit pour Jésus. On va être utile. Et Pierre continue justement, toujours au verset 8, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Donc, il nous dit, mais attention, si vous n'avez pas ces choses, si vous ne croissez pas dans ces choses-là, vous êtes myope, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, vous êtes préoccupé uniquement par vos considérations personnelles et vous avez oublié même tout ce que Jésus a fait pour vous. C'est quand même triste. C'est pas possible. Celui en qui ces choses de son point est aveugle. Donc nous ne voulons pas souffrir ni de myopie ni de perte de mémoire. Et c'est pour ça que dans 2 Pierre 1, verset 10, l'apôtre Pierre nous dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Pierre ne nous dit pas de faire ces choses ou de faire des choses pour être sauvé. Pierre nous dit, si vous êtes sauvé, vous avez un début de croissance qui s'est fait, vous avez une graine qui a été plantée par Dieu en vous. Dieu a mis à disposition toutes ses promesses. Maintenant, il faut y aller. Maintenant, il faut y aller. Il faut qu'on se réveille et qu'on y aille. En tant que chrétien, nous avons peut-être, pour toutes ces caractéristiques, nous ne sommes peut-être pas au niveau que Dieu aimerait nous voir. Donc nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir tous au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de notre assemblée. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons dû. Alors que nous puissions aller de l'avant, et pour conclure, j'aimerais lire ces deux derniers versets dans Éphésiens 3. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations jusqu'aux temps infinis du monde à venir. Amen.